Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Bonjour, deuxième partie de l'émission avec mon invité Gérard Bassalet. Gérard, le fondateur du centre culturel Wadada à Porto Novo. J'ai rencontré Gérard dans le cadre d'un festival où j'ai eu la chance d'être invité pour présenter mon travail photographique. Dans une première partie de l'émission, Gérard s'est livré sur son enfance, fortement impactée par la polygamie de son père et l'absence de sa mère. Une enfance difficile qui ont forgé cet homme d'exception et qui n'a cessé de se battre aux côtés des siens pour plus de justice et d'équité. Dans cette deuxième partie de l'émission, nous aborderons avec Gérard l'histoire du vaudou, une tradition spirituelle très présente au Bénin. Tu es né ici au Bénin, tu es parti très jeune avec ton papa, parce que tu as perdu ta maman pour aller vivre au Congo, avant de te retrouver un peu sans famille dans un internat au Togo du côté de Kpalimé. Et là, tu as compris que la vie, c'était se battre pour arriver à ses fins, pour réussir. Que l'éducation était quelque chose d'absolument indispensable pour pouvoir sortir la tête de l'eau et créer, bâtir son avenir et son futur. Tu réussis brillamment, tu te retrouves aujourd'hui ici directeur du centre culturel de Wadada à Porto Novo après un sacré parcours de vie. Je crois que tu as aussi bossé à un moment donné comme guide touristique. Est-ce que tu peux me parler de cette époque-là de ta vie? Comment est-ce que tu as commencé à travailler avec les Yovo? Les Yovo, c'est ce qu'on appelle les Blancs qui viennent ici en Afrique de l'Ouest.
Après la quatrième année d'histoire, il fallait faire un mémoire, et donc choisir un thème de mémoire. Et moi, j'étais curieux parce que à Porto Novo, je voyais déambuler de temps en temps dans l'espace urbain des adeptes, enfin des personnes qui étranges avec qui portaient à l'époque, c'était des, bon, moi je ne savais pas que c'était des vaudous, mais des trucs sur les épaules, tout et tout. Je me dis, mais c'est très chargé. Et il faisait peur aux gens. Et quand je questionnais des gens, me disaient que c'est les vaudous, c'est des vaudous, c'est le diable, c'est ici. Et ça faisait peur. Et à l'église, quand on en discutait, tout le monde disait que c'est Satan, c'est diabolique, faut faire attention, tout ça, etc. Mais quand j'ai commencé des études d'histoire de l'art, et quand vous lisez les ouvrages, on se rend compte qu'il suffit de s'intéresser à l'histoire de la religion, on comprend tout de suite que y a plein de choses qu'on nous cachait, il y a plein de choses qui sont fausses, des préjugés, tout ça. Et j'ai compris qu'au fait, tout ce qu'on disait de diabolique, c'était pas vraiment diabolique, c'était notre culture au fait finalement, c'était nous-mêmes. Et je me suis intéressé à cela. Je me suis dit, je vais étudier ces espaces qui sont dans la ville de Porto Novo, sur lesquels on voit des grands arbres qui sont centenaires, et dans lesquels les gens disent que c'est les refuges de sorciers, et des temples vaudous. Ça m'a intrigué, ça m'a intéressé. Je dis à mon professeur, j'étudie les places vaudous. Mon professeur, je ne sais pas pourquoi, si lui aussi il avait des réserves ou s'il avait peur, il dit, ben non, ça ne m'intéresse pas, je préfère que tu travailles sur les Assins. Les Assins, à Abomey, les Assins, c'est les hôtels portatifs aux morts. C'est des plateaux sur lesquels pendent des poules de ferraille, tout ça, qui représentent les morts. Pour moi, j'ai dit au professeur, je n'ai pas les moyens d'aller faire ces recherches à Abomey. Je suis déjà installé à Porto Novo. J'ai quelque part dormir ici. Je préfère travailler sur un sujet à Porto Novo. Et donc, ça ne l'a pas intéressé, m'a oublié. Et un jour, j'ai un ami qui m'appelle pour dire, Gérard, il y a un laboratoire qui a besoin de tes recherches, de toi, pour travailler sur des recherches, des sujets liés au vaudou. Je dis, ah bon? Et il m'explique que je te présenterai aux chercheurs qui s'intéressent à toi. Et on me donne rendez-vous au CBRST. Le CBRST, c'est le Centre Béninois de Recherche Scientifique et Technique. Et là, au fait, il y avait un partenariat entre ce centre et le laboratoire LPE, Laboratoire Population Environnement d'Aix-Provence, à Marseille, au fait. Et ils avaient plein de projets de recherche au Bénin, à Lagos, un peu partout. Et il n'y avait que des géographes. Ils avaient besoin d'un historien ou d'un anthropologue pour travailler sur les questions liées au vaudon. Et donc, ils ont appris que je travaillais sur ces espaces-là. Et c'est Jean-Claude Barbier, qui est un Français, un grand sociologue, qui travaillait à l'époque au CNRS, Centre National de Recherche, je pense, en France, et qui s'est intéressé avec Madame Dorier Lapril, qui est aussi géographe, professeur en Aix-Provence, géographe, qui s'intéresse aux questions urbaines. Et ils m'ont dit, ton travail nous intéresse. Est-ce que ça tu voudrais bien intégrer l'équipe de recherche? Et bien avec plaisir. J'étais tellement content, puisque de l'autre côté, mon professeur, ça ne l'intéressait pas trop. Et ici, j'ai une équipe pluridisciplinaire. J'ai un sociologue, M. Barbier, Mme April, qui est Doriel April, qui est géographe, et puis des étudiants, comme vous dites, Yovo, qui étaient là aussi dans le cadre de leur recherche. Je pense que ça a été un déclic. Ça a été un déclic dans la mesure où j'ai été formé à des outils de cartographie par cette équipe de géographes. Et cet outil a été le bonheur aussi de la ville et du Bénin, puisque ça m'a permis de cartographier toutes les places vaudon situées dans le tissu urbain ancien de la ville de Porto-Novo. Ça n'existait pas. Personne n'a étudié les places vaudon. Au lendemain des indépendances, les élites qui ont été formées par l'administration coloniale ont continué à massacrer les espaces vaudons puisqu'ils ont été formés dans l'esprit que c'est diabolique. Les rues ont traversé les places, ont détruit les places sous prétexte qu'il faut urbaniser la ville, il faut moderniser la ville. J'avais passé 3 ans à circuler à pied dans les rues de la ville pour identifier les places. Moi-même, je ne savais pas ce que c'était une place vaudon. J'ai dû concevoir des critères pour dire une place vaudon doit ressembler à ceci. Il doit avoir des arbres sacrés, il doit avoir des temples, il doit avoir... Et au fil des jours, des semaines, des années, j'améliore les critères. Il doit avoir un legba parce qu'effectivement, j'ai compris que sur toutes les places, il doit avoir un legba qui protège la place. Et c'est comme ça. Et finalement, avec cet outil, j'ai pu cartographier toutes les places sur une carte de Porto-Novo et associer des données. Donc aujourd'hui, on sait sur chaque place à qui appartient ces places, l'origine de ces collectivités familiales, par où ils sont passés jusqu'à venir à Porto-Novo parce qu'ils se sont arrêtés à différents lieux, quels sont les éléments vaudons qu'on a du patrimoine qu'on a sur les places, les temples, les noms des vaudous, ainsi de suite. Vraiment, c'était le déclic. Je remercie énormément ces chercheurs béninois et marseillais qui m'ont formé à ces outils.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
C'est rare d'ailleurs.
Regarde d'ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Parce que lorsqu'on parle de vaudon, ce n'est pas seulement l'adoration, ce n'est pas seulement des divinités liées aux éléments de la nature comme la terre, Sapata, comme la foudre, le tonnerre, Tchango, ainsi de suite. La plupart des divinités sont des ancêtres dieux. Donc c'est des ancêtres des collectivités familiales, des gens qui ont vécu, qui sont décédés et qui ont été divinisés. Vous voyez. Et donc le culte de ces ancêtres-là, c'est pour les vivants, c'est de pouvoir maintenir le lien avec leurs ancêtres, leurs aïeuls. Parce qu'on considère chez nous qu'il n'y a pas le paradis, il n'y a pas l'enfer, hein, mais c'est le monde des ancêtres qui nous, et nos ancêtres nous protègent. Ils sont dans les cieux, ils sont sous la terre. Donc le fait de ne pas faire ces rituels, puisque si les places disparaissent, il n'y aurait plus de lieu où on peut faire ces cérémonies vaudons. Donc c'est couper le pont entre les vivants et les ancêtres. Vous imaginez, dans la pensée des gens, c'est que tous les malheurs vont s'abattre sur eux. Ils seront maudits à jamais, ils auront des problèmes, et qui va s'occuper d'eux? C'est comme, moi je vous ai dit, je n'ai pas connu ma mère, si elle était là, elle aurait pu m'assister aussi. C'est comme ça, les ancêtres sont là pour veiller sur nous. Et donc si on ne peut pas garder ce lien à travers les cérémonies venant avec ses ancêtres, on est voué à nous-mêmes, donc à la perdition totale.
Donc c'est vraiment une forme d'ignorance hein, que de vouloir couper un peuple de ses traditions, de ses croyances et de sa propre culture. Donc heureusement aujourd'hui il existe des outils, donc je sais que tu t'actives beaucoup pour restaurer différentes places vaudou ici à Porto Novo. Je vais m'intéresser à Gérard Bassalé, l'historien. Qu'est-ce que c'est que le vaudou? Comment est-ce que tu l'expliquerais un yovo à un blanc? Parce que nous quand on entend le mot vaudou en France ou en Occident, on va être dans une forme d'imaginaire où on va s'imaginer une poupée dans laquelle on va planter des aiguilles, des épines. Donc qu'est-ce que c'est que le vaudou? Comment est-ce que toi tu nous l'expliquerais simplement? Est-ce que tu peux nous parler aussi de son histoire? À quel moment que tu peux m'en dire plus sur les origines du vaudou?
C'est difficile hein, de vraiment vous dire de façon précise les origines du vaudou. Mais je peux essayer en vous disant tout simplement que c'est d'abord les orishas. Orisha, c'est le vaudou chez les Yoruba. Donc, d'après les archives, je crois qu'on peut s'accorder pour dire que c'est les Yoruba qui ont inventé tout ce système de croyances que nous appelons Orisha. Les Orisha, c'est les vaudou chez les Yoruba. Il y a des Yoruba au Bénin, mais les Yoruba sont originaires du Nigeria, plus précisément d'Oyo. S'il y a eu l'empire d'Oyo, qui est l'empire des Yoruba, ces peuples-là, Yoruba, qui prouvent que déjà à l'époque très ancienne, il y avait dans cette région un foyer de création très important. Les Yoruba sont des peuples créatifs. D'ailleurs, il y a les bronzes aussi, d'Oyo, les bronzes qui présentent les personnalités de la cour royale à la fin Yoruba. Les Nok, c'est des œuvres qui datent de... Il y a des Nok qui datent de plus de 10 000 ans, vous voyez. Donc, c'est vraiment des pièces importantes. Les Yoruba sont venus avec le Ifa, c'est-à-dire le système de consultation dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui permet de comprendre la volonté d'une divinité, de comprendre la volonté d'un ancêtre que nous appelons communément l'oracle. Il y a eu plusieurs migrations des peuples sur notre continent africain et dans la sous-région ici. Les Yoruba sont venus s'installer à Porto Novo, probablement vers le 15e siècle, d'après les traditions orales. Et ils sont venus justement d'Oyo, donc situé actuellement dans le Nigeria, avec un certain nombre de divinités, comme le Ogou, les jumeaux, la divinité Aho, qu'ils appellent les jumeaux, Bedi en Yoruba, ça veut dire les jumeaux, avec des divinités Doudoua. Au Doudoua, c'est l'ancêtre mythique des Yoruba, par exemple.
Mais quand tu parles de divinité, c'est quoi une divinité pour toi?
Je préfère parler de Dieu, bon, même divinité, aujourd'hui c'est encore péjoratif de Dieu, parce que quand on dit vaudou, on ne comprend rien. C'est un foutu vaudou. Ouais. Mais je préfère parler de Dieu parce que c'est une entité à laquelle on voit un culte qui a des adeptes, un clergé, un prêtre qui officie. Donc quand je prends la terre sur laquelle nous vivons, dans notre croyance ici, c'est considéré comme un dieu, la terre nourricière. Et cette terre est adorée par des gens. Et il y a des adeptes de la terre, qu'on appelle Sakwata, si. Et il y a des prêtresses, donc régulièrement. Et cette divinité terre est matérialisée par une motte aussi de terre à l'intérieur d'un temple. Et régulièrement, les prêtres ou prêtresses lui offrent des offrandes ou des sacrifices pour implorer ses bienfaits, pour demander peut-être la guérison d'une personne, ou si quelqu'un, une femme veut un enfant, pour lui demander ainsi de suite. Donc c'est pour ça que je parle de Dieu. C'est une entité qui nous dépasse. Mais ce n'est pas la motte de terre qui est vraiment le Dieu qui est là. Ouais, c'est ça que les gens ne comprennent pas. Sinon, on peut associer le vaudou, parce que certaines personnes disent que c'est de l'idolâtrie, c'est du paganisme, il y a plein de mots, d'adjectifs qu'on attribue au vaudou. Mais pour mieux comprendre, il faut simplement se dire qu'il s'agit des énergies. Parce que pour installer une divinité, ce n'est pas la motte de terre ou les ferrailles assemblées que vous voyez là, non. C'est à l'intérieur de la terre. Et c'est des initiés qui le font, des prêtres qui le font. Et le Fa déjà définit comment il faut installer une divinité. Donc c'est pour ça que je dis que les origines viennent des Yoruba, puisque le Fa vient de chez les Yoruba. Et donc, généralement, on creuse la terre et on met un certain nombre d'éléments. Vous voyez, ça peut être des variétés d'espèces végétales, ça peut être aussi des plumes de certains oiseaux, ça peut être des matières organiques d'animaux, ainsi de suite, superposées de façon scientifique. Quand je dis scientifique, c'est avec une précision, c'est pas dans le désordre, et dans des positions données, ainsi de suite. Ça, c'est des trucs hautement secrets qui ne nous intéressent pas, parce que c'est les prêtres qui savent le faire. Mais je vous explique tout simplement pour que vous compreniez. Et ensuite, on ferme le trou et là, on met une motte de terre là-dessus qui symbolise la divinité. Donc si c'est une divinité, par exemple, dans liée au serpent, vous allez voir qu'ils vont mettre des poteries. Et sur ces poteries, vous allez voir que c'est des poteries sculptées. Donc soit un serpent, soit un caméléon, un reptile, ainsi de suite. Si c'est une divinité au goût, vous allez voir qu'ils vont mettre la motte de terre ou bien ils vont mettre un assemblage de ferraille là-dessus. Mais ce n'est pas ce fer-là qui est le vaudon. Ce n'est pas cette motte de terre ou cette poterie qui est le vaudon. Ouais. Donc si demain, par exemple, la terre qui est dessus, les poteries disparaissent, les ferrailles quittent, les gens vont continuer toujours à venir adorer la divinité là en lui donnant des offrandes et des sacrifices. Juste sur de la terre simple, on le voit un peu partout, même sur du bitume. On voit des gens faire des offrandes tout et tout, on se dit, mais ils adorent le goudron, ils adorent les pavés, mais non, c'est parce que le vaudou est là, mais dans la terre enfouie. Et c'est ce qui est au fond du sol qui est le plus important.
Tu me disais avant que, enfant, ou quand tu as découvert le vaudou, c'est quelque chose qui faisait peur. Pourquoi est-ce que le vaudou effraye?
Mais moi, déjà, dans ma petite enfance, tous les jours, il fallait faire la prière. Déjà, à l'internat, c'était l'internat catholique. Donc, il fallait sonner l'Angelus, il fallait réciter l'Angelus chaque fois. Et à tour de rôle, on servait la messe, parce qu'on était des enfants de cœur. Après, en famille, tous les soirs, il faut prier. On lisait beaucoup la Bible. Et il y avait aussi ces idées, le monde imaginaire chrétien aussi, où on nous disait que le corps est divisé en esprit, l'âme, et qu'il fallait prier pour protéger les démons d'entrer dans son corps et de souiller l'âme et l'esprit. Ouais, donc il fallait prier tous les jours, etc. Et donc moi j'avais peur dans ma chambre de me retrouver avec un démon la nuit, de me retrouver avec Lucifer. Donc toutes ces croyances catholiques m'ont vraiment cultivé en moi, nourri en moi une peur. J'étais jamais tranquille quand j'étais catholique, vous vous rendez compte. J'avais tout le temps peur qu'un démon entre en moi. J'avais peur d'être habité par Lucifer. J'avais peur. Et là, à un moment donné, je confondais même la raison avec ce monde invisible de Lucifer. Ouais, parce que quand il vous arrive, par exemple, de dire « je veux faire telle chose », et dans votre subconscience, tout ça, vous dites « non, il ne faut pas faire, ce n'est pas bon ». Non, l'autre partie vous dit « il faut le faire parce que ça vous permettra d'évoluer ». Je me disais « ça, c'est moi et Lucifer et Dieu qui parlent comme ça ». Vous voyez, j'étais arrivé à un niveau où je dis « maintenant, Gérard ». Aujourd'hui, j'ai pas ça. Ça me fait plus. J'ai pas ces sensations-là. Je suis entier. Et il a fallu que je m'intéresse au vaudou. Parce que quand j'ai commencé à m'intéresser au vaudou, les prêtres vaudou tout de suite m'ont fait comprendre que il n'y avait pas de Satan, il n'y avait pas de diable, il n'y avait pas de démon. Et ils m'ont fait comprendre que c'est l'énergie, c'est la vie qui est en réalité Dieu. C'est l'énergie qui est Dieu. Oui. Et quand j'entre, ils m'ont permis de rentrer dans les couvents, dans les forêts sacrées, et quand je les vois pratiquer, c'est pas ce qu'on nous dit à l'église que je découvre. Je découvre des gens qui sont en harmonie avec l'environnement, des gens qui soignent avec les plantes. Je ne vois pas des gens qui invoquent des démons. Je ne vois pas des gens qui invoquent Lucifer. Je vois au contraire des gens qui dansent, qui chantent, qui prient, et leur prière, c'est la même chose que ce que je faisais. Prier, ils prient pour le bonheur de la planète. Ils prient pour que les gens qui sont malades dans les hôpitaux retrouvent la santé. Ils prient qu'il n'y ait pas de guerre. Ils prient pour la paix. Et je me dis, mais on nous dit le diable est le maître de la guerre, est le maître des malheurs. Mais il n'est pas là, on ne l'invoque pas là. Ça devait être son nom, royaume, là, dans la forêt sacrée. Mais c'est pas du tout ça. Et je me dis, mais on nous raconte du n'importe quoi. Vous voyez, on appelle l'homme chez nous Beto, dans Angoum, Beto. Be veut dire la vie, To veut dire père. Et donc, les vieux qui m'expliquent, ils disent, tu sais pourquoi on appelle l'homme Beto? C'est que nous sommes en réalité les maîtres de la terre. Donc, il n'y a pas un diable qui est maître de la terre et Dieu maître des cieux. C'est nous, les hommes, qui sommes maîtres de la terre. Nous faisons de la terre ce que nous voulons. Et donc, dans le vaudou, il faut préserver la planète Terre, parce que la Terre, c'est le vaudou même, la Terre. C'est la première divinité importante, puisque sans elle, il n'y a pas de vaudou. Vous voyez, le dieu Ogun, c'est dans la Terre. C'est dans la Terre qu'il y a le métal.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Ce que je trouve très intéressant, c'est que tous les peuples du monde, quelle que soit leur culture, leur tradition, on parle de la terre, du lien à la terre. Les Amérindiens, déjà, avait ce respect profond de la terre qui ne nous appartient pas mais que l'on emprunte pour les générations futures. En Amérique du Sud, on parle de Pachamama, la terre mère. Tous les peuples, les aborigènes d'Australie, le Dreamtime, le temps du rêve, où on apprend à lire le langage de la terre. Donc c'est cette notion de la terre, et aujourd'hui, même les scientifiques, on apprend à prendre soin de sa terre. Dans toutes les matières, que ce soit des matières scientifiques, spirituelles et religieuses, on prend conscience qu'aujourd'hui, on vit sur une planète absolument magnifique, unique. Il n'y en a qu'une, il faudrait qu'on apprenne à la préserver, parce que c'est quand même elle qui nous nourrit au quotidien et qui nous permet de vivre bien, et qu'il faut en prendre soin. Et on retrouve ça dans énormément de traditions, le chamanisme, on parle de chamanisme aussi, hein, qui est un peu un terme générique, qui va reprendre les traditions des différents peuple sur terre. Le vaudou fait partie aussi des traditions chamaniques, et le message est vraiment là, prenons le temps de nous relier, de nous reconnecter à cet essentiel, à la terre dont on vient tous, parce qu'aujourd'hui, notamment en Occident, on a souvent l'habitude de vivre hors sol, on est coupé de tout ça. Tu parlais du macadam et du béton, on vit sur du macadam, on vit dans des tours en béton, on s'éloigne de la terre, on ne comprend plus le langage de la terre, alors que finalement le vrai message, c'est de reconnecter à cet essentiel et de prendre conscience à quel point il est important de la préserver pour nous, pour les générations futures, mais aussi pour tout le monde vivant, tous les vivants qui partagent cet espace.
Mais je vais vous raconter un petit conte, une petite légende du Fa. Vous savez, le Fa, c'est un arbre de combinaison, je vous ai dit, et il y a 16 premiers signes, les 16 principaux signes qui combinaient entre eux, donne 256 signes. Et chaque signe a un nom, une légende et des recettes associées aussi à des plantes. Il y a un signe de Fa qui raconte au fait l'importance de préserver la terre. Le conte raconte qu'à l'origine, il y avait le ciel et la terre. La terre, c'est la femme. Et le ciel, c'est son mari, son époux. Les deux étaient si proches l'un de l'autre comme une marmite de son couvercle. Ils avaient pour enfants les végétaux, les animaux, les hommes. Et tout se passait très bien. Tout le monde se comprenait, on comprenait le même langage, on partageait l'espace correctement, et la vie était belle. Sauf, parmi tous les enfants de ce couple, les plus récalcitrants étaient les hommes. Et je constate qu'on n'a jamais changé. Pourquoi ils étaient les plus récalcitrants? Ils coupaient les arbres pour faire déjà des meubles, des tabourets, et pour faire la cuisine, même fumer le poisson, la viande. Les arbres se plaignaient. Bon, mais ça passait, ça allait tranquillement. Mais pire, ils étaient curieux de découvrir qui était leur père, le ciel. Ils ont fabriqué un pilon et le mortier, sous prétexte qu'il fallait moudre les céréales pour faire la pâte, pour faire la bouillie, etc. Très bien. Mais le pilon s'allongeait chaque jour et essayait de cogner leur père, le ciel. Et chaque fois, Leur père, le ciel, s'élevait d'un cran. Et disait à ses enfants, mais faites attention, vous risquez de me faire du mal. Mais c'était fait exprès par les hommes. Ils voulaient cogner le ciel pour voir si ça allait se casser, voir qu'est-ce qu'il y a au-dessus du ciel. Et chaque fois, le ciel se levait d'un cran. Si bien qu'un jour, fâché, il s'est retiré très loin, là où il est aujourd'hui. En laissant sa mère, sa femme, s'occuper seule des enfants. C'était une tâche difficile pour la terre, toute seule, de s'occuper de tous ces enfants-là. La terre a commencé à supplier son mari de revenir sur sa position, sur sa décision. Vous savez qu'une décision divine est parfaite, donc le ciel ne peut plus revenir sur sa décision. Les jours passaient, les nuits passaient, ainsi de suite, des semaines, des années. Et ça devenait de plus en plus compliqué. La vie a commencé à disparaître progressivement sur la terre. Les hommes sont morts d'abord. Les animaux sont tous morts. Les plantes sont restées quelque temps, mais tous sont disparus. Il restait que la terre. Il faisait tellement chaud, la terre a commencé à craqueler. Mais elle suppliait toujours son mari de laisser de revenir. De ces supplices sonnaient les premières prières vaudou. Et il faisait de plus en plus chaud et la terre craquelait de plus en plus. Face à cette triste situation, le ciel a regretté sa décision et il s'est mis à pleurer. Il a pleuré, il a regretté. Et les larmes ont donné naissance au cycle des saisons. Les larmes ont atterri sur la terre, puisque la terre était tellement craquelée, les larmes sont allées dans les entrailles de la terre. La terre a joui. Et la première vie qui est apparue, le premier germe, c'est l'hysope. C'est pour ça que dans la tradition vaudou, c'est le plus sacré de tous les arbres. Et c'est le préféré des dieux. Donc c'est l'arbre qui pousse toujours en hauteur. Et quand vous voyez les feuilles de l'hysope, c'est toujours 7 ou 9 sur la tige. Et curieusement, même moi j'ai lu dans la Bible, psaume 51, « Lave-moi avec l'hysope et je serai pur comme la neige. » Donc c'est le préféré des dieux, l'hysope. En Yoruba, son nom c'est Ewé Akoko et littéralement ça veut dire la première plante. Ewé veut dire plante, Akoko premier. Quand vous demandez en Yoruba comment on appelle l'hysope, c'est Ewé Akoko. Et même dans les livres de botanique, vous allez voir le nom Yoruba de l'hysope, c'est Ewé Akoko. Parce que ce que je vous raconte, c'est la légende des Yoruba. C'est Ifa, il a dit. Et partout où il y a une divinité vaudou, vous allez voir l'hysope toujours. C'est un marqueur de la présence, un marqueur du sacré. Partout où il y a une divinité, il y a l'hysope. Et après, il y a eu les autres arbres sacrés. Après les arbres, il y a eu les animaux. Et après les animaux, en dernière position, il y a eu les hommes. Et le ciel demande à tous ses enfants, y compris les hommes, les animaux, les végétaux, il leur dit de regarder à l'horizon. Ils ont vu apparaître l'arc-en-ciel. Il leur a dit, certes, je ne peux plus revenir vers vous comme j'étais avant. De ma position, je suis toujours près de vous. Chaque fois que vous doutiez, vous pensiez que je ne suis pas là, dans des situations difficiles, regardez juste à l'horizon. Vous verrez cet arc-en-ciel qui est désormais le sceau de notre alliance. Chaque fois que vous voyez l'arc-en-ciel, c'est que je suis toujours avec vous. Parce qu'on ne connaît pas d'où commence l'arc-en-ciel et où ça finit. Donc c'est pour ça que dans le panthéon vaudou, c'est le symbole de l'éternité. Et c'est une divinité vaudou qu'on appelle Aïdo Wedo. Donc c'est à partir de là que l'arc-en-ciel est devenu un vaudou. Qui est le vaudou du lien qui unit toute la création avec la terre et le ciel. C'est pour vous dire qu'il ne peut jamais avoir le vaudou sans la nature, parce qu'il ne peut pas avoir le vaudou sans l'hysope. Il ne peut pas avoir le vaudou sans les arbres sacrés. Il ne peut pas avoir le vaudou sans une forêt sacrée. Donc sans la terre, sans la nature. Donc c'est l'énergie de la nature, le vaudou. Ouais. Donc si les forêts disparaissent, c'est que le vaudou n'existe plus. Et nous aussi, nous n'existons plus.
Gérard, tu es issu d'une famille musulmane, chrétienne, tu t'es intéressé au vaudou. Quelle est ta définition de Dieu aujourd'hui, force de ces différentes cultures, différentes croyances, différentes études que tu as pu faire? Comment tu définirais Dieu si tes enfants te demandent « Papa, c'est quoi Dieu ?»
Oui, mes enfants, à l'école, on leur parle de Allah, on leur parle de Jésus, on leur parle de plein de trucs. Quand ils viennent, ils me demandent, papa, est-ce que Satan existe? Je leur dis non. Et parfois, bon, le plus grand aujourd'hui, il a compris, mais le plus petit, maintenant, il est à cette période-là où vraiment, il se pose beaucoup de questions. Et je dis non, Satan n'existe pas. Il me dit, si, papa, il existe. Et je lui dis, mais où? Il est sous la terre. Je dis, ah bon? Mais sous la terre, on a du magma, on n'a pas Satan. Si, 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 Satan est là. Je dis, bon, qui t'a dit que Satan est là-bas? Mes amis. Je dis, bon, ok, il ne faut pas les contredire. Ben, sache que Satan n'existe pas. C'est une légende, c'est une histoire. Et après, il revient et me dit, papa, est-ce que Dieu existe? Je dis, Dieu, qui t'a dit, qui t'a posé cette question? Il dit, à l'école, mon ami Raouf, enfin, musulman, dit que oui, Dieu existe, c'est Allah. Et mon autre ami dit que non, que c'est Jésus. Donc, qui est vraiment Dieu parmi eux? Je dis, bon, écoute, c'est une question de religion. Chacun croit à son Dieu. Il faut respecter la croyance de l'autre. Sinon, ils vont être tes ennemis. Vous allez vous battre ou même vous discuter pour rien. Rien du tout. Et dit, alors, qu'est-ce que Dieu? Dieu existe ou pas? Je dis, le monde est régi par l'énergie. Quand tu vas grandir, tu choisiras si tu veux être musulman ou chrétien ou rien. Il dit, et toi papa? Je dis, moi aujourd'hui, je n'adore rien, je respecte que la nature. Si je dois adorer quelque chose, c'est la nature. Il dit, mais pourquoi la nature, la plante? Je dis, ben oui, tout ensemble, c'est la nature pour moi. Et aujourd'hui, tu vois, la plante, on ne peut pas lui faire mal, on sait qu'elle vit. Quand tu la blesses, il y a la sève, elle grandit comme toi. C'est magnifique, non? Elle donne des fleurs, des fruits, c'est magique. Il dit, oui, papa, c'est beau, non? Oui, ben, c'est ça, moi, je respecte ça. Donc, moi, je ne pense pas qu'il existe un Dieu. S'il existe ce Dieu, peut-être c'est l'énergie. Pour moi, la vie est faite d'énergie, vous voyez. Et j'ai pris du temps à comprendre cela. Parce que, comme je vous ai dit, moulé dans cette croyance catholique, j'avais peur de tout. Et il a fallu que je m'intéresse justement au panthéon vaudou, à la croyance, à la tradition vaudou, et j'ai compris vraiment beaucoup de choses. Et comme on dit, le vaudou ouvre les yeux. D'ailleurs, c'est comme ça l'initiation. L'initiation vaudou, c'est vous ouvrir les yeux. C'est comme ça on dit dans la tradition vaudou, quand on veut vous initier. On va te laver les yeux pour que tu puisses voir autrement les choses. Et c'est ça, vous voyez. Donc, moi, j'ai appris à découvrir qu'une autre façon du monde, de percevoir autrement le monde aujourd'hui. Et je suis heureux. Je suis vraiment heureux de découvrir cela. Sinon, je pense que je regretterais toute ma vie si j'étais passé à côté de cela. J'ai découvert que le monde est régi vraiment d'énergie. D'énergie, vraiment. Et il y a beaucoup de choses qui échappent à la science. Et les yeux m'ont montré beaucoup de choses. Et j'ai des amis en France qui sont des biologistes, qui sont des chimistes, qu'on appelle des médecins. Et chaque fois, parce que moi j'ai un cahier, j'ai des cahiers de 300 pages. Les vieux, ils me forcent, hein, ils me disent, non, il faut noter ça, il faut noter ça. Mes enfants ne veulent plus, ils sont chrétiens, mes enfants ne veulent plus, ils sont ceci. Je dis, mais papa, c'est pas à moi. Il dit, non, note, tu fais ce que tu veux. Ils m'ont montré beaucoup de secrets de plantes. Et j'ai compris que les plantes que nous voyons là ont beaucoup de fonctions. Non seulement c'est des plantes qui soignent, mais c'est des plantes qui peuvent aussi nuire. Et c'est justement ça, pour ça que les gens ont peur des adeptes vaudous, parce qu'ils sont formés à ça dans le temple. Quand vous embêtez un adepte vaudou, il ne va pas se battre avec vous, mais il sait qu'il a la nature à portée de main pour se défendre. C'est magique, je trouve. Et c'est des connaissances que, bon, moi, on ne m'a pas appris ça à l'école, on n'apprend pas ça aux enfants. J'ai ça moi-même là, je garde ça dans mes cahiers, mais je ne sais pas ce que je peux faire de ça. Ouais. Donc voilà un peu pour moi la notion de Dieu, c'est la nature, c'est l'énergie. Et ils ont tout compris, nos ancêtres.
Dieu, c'est la nature, c'est l'énergie, et l'énergie est partout. Donc à nous de prendre soin de la nature, et de prendre soin de nous et des autres aussi. Et peut-être que Dieu, c'est aussi l'amour. Cette notion de s'aimer soi, mais d'aimer l'autre et d'aimer tout ce qui nous entoure. Gérard, merci beaucoup.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Merci à tous pour votre écoute. L'émission que vous venez d'entendre s'appelle « Regard d'ailleurs ». Ce podcast donne la parole à ceux que je rencontre sur les routes du monde dans le cadre de mon activité de photographe voyageur. Je pars de l'idée qu'une personne, le parcours de vie d'une personne peut en inspirer beaucoup d'autres et j'aime pouvoir récupérer tous ces témoignages souvent très inspirants. Belle journée à tous !